J'ai toujours eu un rapport particulier à la nuit. Aussi loin que je me souvienne, le soir a exercé sur moi une fascination continuelle. Dès l'enfance, j'opposais aux dictats des adultes la joie de veiller. Il me semblait déjà que l'obligation de dormir me privait de manière scandaleuse d'une dimension inconnue de l'existence. Il faut savoir que l'appartement que nous occupions favorisait la rêverie nocturne. Il s'agissait d'un local industriel qui avait été aménagé en habitation. Les grandes fenêtres de ma chambre n'étaient pas adaptées à la pose de volet, de sorte que seul un grand rideau rouge me barrait l'accès à la nuit. Il a peine besoin de dire que, dès que mes parents avaient quitté la pièce, il m'était facile de me relever et de tirer discrètement le rideau. Le théâtre de la nuit s'ouvrait alors à moi. Cet appartement n'était éloigné de Belsier que de quelques encablures. Il donnait sur la place Renaudel. Chaque soir, tandis que les adultes débarrassaient la table et s'apprêtaient à regarder le film du soir, je me dressais sur mon lit et assistais à mon propre spectacle, un spectacle dont j'étais persuadé être l'unique spectateur, surplombant la rue de deux étages, petit bout de chair rendu invisible par l'obscurité et qui se livrait à la passion des images mobiles. Que voyais-je de mon balcon nocturne ? Je n'ai aucune difficulté à m'en rappeler, tant ce que j'ai vu s'est imprégné dans ma mémoire comme des empreintes durables dont les contours sont encore nets et vifs. Ce que je voyais, c'était une succession de scènes fugaces et étranges. Des piétons solitaires qui avançaient d'un pas rapide dans le gris cendre du soir, des propriétaires de chiens la clope au bec, des automobilistes qui vérifiaient 10 fois l'état de leur voiture après l'avoir garée, des groupes bruyants qui ne s'attardaient pas mais fusaient comme des comètes, des rencontres et des discussions qui me paraissaient longues, des gestes parfois violents, voire des bagarres, tout un ensemble de faits ordinaires qui, sous la lumière crue des lampadaires, prenaient pour moi des aspects de tragédie antique. J'enviais ces hommes et ces femmes qui veillaient, qui étaient dehors, qui arpentaient la ville obscure, tandis que j'étais consigné à l'intérieur, sous le fallacieux prétexte que je devais me reposer en vue du lendemain. Je n'avais aucune envie de me reposer. Le repos m'était odieux, insupportable. Je ne me sentais pas fatigué. Je voulais brûler par les deux bouts cette énergie qui me traversait, comme ces hommes et ces femmes, là dehors, qui bougeaient, parlaient, inventaient, qui bénéficiaient, à mes yeux d'enfant, d'une liberté totale d'aller où bon leur semble, sans devoir économiser leur force. À dire vrai, je ne savais pas trop ce qu'ils trafiquaient dehors, et le sens véritable de leur chorégraphie nocturne me demeurait caché. La seule chose que je savais, intimement, sans que je puisse me tromper à ce sujet, c'est qu'ils élargissaient les frontières de l'expérience, qu'ils vivaient une aventure plus intense et plus réelle que le pâle substitut que mes parents regardaient dans le salon. Ils étaient pour moi plus précieux que les héros des films qui occupaient les soirées quotidiennes de la plupart des gens. J'ai, depuis lors, continuellement conservé ce goût de la nuit, cette attirance pour les paysages obscurs, les zones d'ombre, l'effacement des choses dans le noir, mais aussi pour les mutations que le soir amène, la métamorphose des lieux et des personnes, la sensation qu'un autre jour que le jour commence, que la vie ne s'arrête pas à 11 heures du soir, mais inaugure une nouvelle phase, moins connue, plus secrète, à la fois sauvage et douce, apaisante et barbare. Cependant, j'ai dû attendre longtemps avant de pouvoir jouir de la liberté totale qu'octroie l'espace nocturne, la liberté d'inverser les codes, de se soustraire aux règles stupides du jour. Ce n'est qu'à l'adolescence que l'atténuation progressive de la discipline familiale m'a permis de faire par moi-même, hors de la législation, l'expérience de la nuit. J'ai alors découvert la joie d'errer, de flairer, de traîner, alors que la masse des autres hommes s'était réfugiée chez eux. Il serait trop long de passer en revue ces expériences que tout un chacun a faites, et qui, dans le ciel illimité de la mémoire, forment comme des constellations. Virée sans but, quête amoureuse, chapardage de choses futiles, intrusion illégale sur des territoires privés, dégradation vandale, mais aussi moments de grâce et de calme sur des promontoires improbables, télescopage surprenant, surgissement du merveilleux. Je voudrais simplement évoquer ici, loin de Belsier, zone étrange de Bordeaux vers laquelle nous reviendrons, une autre nuit immense et inconnue, celle du continent américain. C'était à l'occasion d'un séjour linguistique dans l'Idaho, lointaine terre de l'Ouest, aussi vaste que mon pays et dépeuplé. Accueilli dans une famille anticonformiste, je jouissais comme jamais d'une liberté totale qui me faisait découcher tous les soirs. Je ne rentrais qu'au petit matin, lorsque mes hôtes partaient travailler, de sorte que pendant tout le mois, je les croisais à peine, fantômes diurnes astreints aux lois de la vie respectable. La ville de Boise, sise entre le désert et les montagnes rocheuses, formait le lieu infini de mes escapades nocturnes. Tous les soirs, après le dîner, j'empruntais le vélo de mon correspondant et partais à l'aventure dans cette suburbia américaine qui deviendra plus tard le champ de mes explorations intellectuelles. Je retrouvais parfois d'autres amis, mais le plus souvent, c'est seul que je me promenais dans cette vaste ville qui conjuguait le paysage typique de l'Americana avec la brutalité sauvage d'un western moderne. Je n'étais jamais fatigué et enfilais les miles. Je ne cherchais rien de particulier, mais me nourrissais jusqu'à l'ivresse du nectar divin des images et des rencontres nocturnes. On m'interpellait parfois, et ne sachant si c'était signe d'amitié ou de défi, je filais à toute vitesse. La ville n'était pas très dangereuse, mais elle possédait son downtown miteux, glauque et braillard, ses quelques bâtiments délabrés, et à quelques blocs de là, ses banlieues pavillonnaires au look propre, aux pelouses manucurées. Je n'hésitais pas aussi à sortir des frontières urbaines et à m'aventurer dans la nature. Une nuit, je me retrouvais dans une villa en construction, au cœur d'une zone déserte et montagneuse. J'y avais été attiré par le bruit. À peine arrivé sur les lieux, un chantier qui paraissait abandonné, je tombais sur un concert clandestin. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'écoutais à cette époque, une sorte de punk sale, campagnard et chevelu, l'antithèse de la musique cold qui remplissait mon cerveau. Outre le groupe qui jouait sur la terrasse inachevée, il y avait une vingtaine de jeunes blancs buvant des bières et fumant des pétards. Je m'installai parmi eux. Personne ne remarquait ma présence. Les musiciens eux-mêmes, cachés sous une tignasse tombante, grattaient comme des furieux sur leur guitare, d'où sortait en vomissure un chaos sonique dans lequel je ne percevais aucun ordre mélodique. Le batteur, en retrait, une casquette de paysan vissée sur la tête, tapait lourdement sur ses caisses, ajoutant à la cacophonie ambiante une impressionnante chape de plomb. De la terrasse, on surplombait le désert. On ne percevait plus les lumières de la ville, seul un halo plus clair irisait la partie gauche du ciel. Je me coulais discrètement dans l'ambiance et me décapsulais une bière. Une jeune fille de type asiatique me cria quelque chose à l'oreille que je ne sus comprendre. Il faut dire que le groupe jouait de plus en plus fort. Tout le monde paraissait d'ailleurs hypnotisé par le barouf qui envahissait la terrasse, mais aussi la villa tout entière. C'est comme si le vide des pièces amplifiait le son et lui donnait une puissance qui pouvait rivaliser avec les éléments, le ciel étoilé, le désert sauvage et la crête noire des rocheuses. J'étais moi-même ébahi par ce que je voyais, entendais, sentais. Un des guitaristes en particulier m'impressionnait beaucoup. Il martyrisait ses cordes comme je n'avais jamais vu personne le faire avant lui et semblait littéralement entrer en transe. Il commençait à s'agiter en tous sens parmi les autres musiciens sans que ses mouvements soient coordonnés à un quelconque rythme. Sous lui, les craquelures du béton formaient des arabesques gigantesques. Gesticulait ainsi lorsqu'il se prit les pieds dans les câbles et chuta de la terrasse. Il n'y avait aucune barrière pour le retenir. Je fus effrayé par cette disparition soudaine, mais tout autour de moi, personne ne réagit, à croire qu'il ne l'avait pas vu tomber. Les autres membres du groupe jouaient comme si de rien n'était, et le son frappait toujours aussi fort sur mes tempes. Je secouais la jeune fille de type asiatique pour l'alerter, mais elle me souriait bêtement avant de se montrer hostile à mes gestes et mes cris. Étais-je donc le seul à l'avoir vu tomber ? Je me levai d'un bond et cherchais aussitôt à rejoindre le bas de la terrasse. La villa était grande et les matériaux de construction empilés un peu partout n'aidaient pas à se frayer un chemin. Je mis un certain temps dans la pénombre de ce labyrinthe vide et poussiéreux à trouver un accès à ce qui aurait dû être un jardin. J'étais à présent sous la terrasse, à l'endroit exact où, selon mes calculs, le guitariste avait dû tomber. Mais je ne voyais autour de moi qu'un terrain sec et caillouteux et le noir intense de la nuit. Il n'y avait aucune trace de sa chute, ni le câble pendant, ni les vêtements déchirés. Je commençais à douter de ma propre conscience. Peut-être avais-je tout simplement rêvé cette scène. Depuis un mois que je sortais tous les soirs jusqu'à l'aube, j'avais entamé mes réserves. La fatigue, le dépaysement, le sortilège de la nuit, tout cela s'était ligué contre moi pour fomenter une illusion. Au-dessus de ma tête, la musique continuait de retentir avec des ampleurs wagnériennes. J'étais sur le point de remonter. C'est alors que je perçus un léger râle. Oh, presque rien, c'était à peine audible, sous la voûte sonore qui couvrait tout. J'avançais dans la direction de ce qui me semblait être la source. Je n'avais pas de lumière et il m'était difficile de voir où je mettais les pieds. J'avais une peur bleue des serpents à sonnette et souhaitais au plus profond de moi rebrousser chemin et revenir pour une fois me coucher avant l'aube. Cependant, je continuais d'avancer dans l'odeur forte de la sauge lorsque je trébuchais sur un obstacle. Une demi-heure après, les secours arrivaient. Tout le monde avait disparu. J'étais resté seul avec la fille de type asiatique à prendre soin du guitariste salement amoché. Des centaines d'autres nuits ont suivi. Nuits de repos, de discussions, de sorties, nuits d'errance et de chasse, de flânerie, de dérive, de fatigue et de peur. L'âge adulte m'a permis de donner à mon tropisme un champ d'expérimentation illimité. Pendant des années, il n'était pas une semaine sans que je me lançasse dans de longues balades sans but. J'allais souvent seul. À la différence des situationnistes experts en exploration urbaine, je ne voyais pas dans ces errances la matrice d'une révolution future, mais un espace solitaire de liberté et de fuite. J'assouvissais surtout ma passion voyeuriste de l'espionnage, toujours à l'affût de ce qui pouvait se passer. C'est à peine si je n'osais entrer par la fenêtre chez les gens et fouiller dans leurs affaires. J'ai toujours considéré que le monde et les autres possédaient plus d'importance que moi-même, qu'ils étaient plus intéressants. Je me connais par cœur et n'ai pas grand-chose à découvrir en moi. J'ai vite fait le tour de mes obsessions et de mes tares. Par contre, ce qui m'entoure m'a toujours captivé. Il m'a toujours semblé plus vaste, profond, obscur que ce que je pouvais ruminer intérieurement. Ainsi, à chaque occasion, j'ai essayé de me défaire de mon moi, de le retourner comme une peau, de l'exposer au pur dehors, de le fondre, de le dissoudre dans ce qu'il excédait. L'errance a été un exercice de dépersonnalisation, une façon de laisser de côté le petit moi génial et suffisant pour s'ouvrir aux odeurs, aux nuances du noir, aux objets furtifs, aux présences nouvelles. Je suis rarement parvenu à ce satori du vide, à cette extase de la perte de soi, mais les rares fois où ils se sont produits, cela a été de nuit, dans une zone floue, avec des personnes plus floues encore. À Bordeaux, au milieu des années 80, j'avais mes districts préférentiels, loin du centre, en périphérie de la ville, dans les quartiers en friche, indéterminés, au milieu des nouvelles ruines urbaines, ces étranges bâtiments qui n'ont aucun intérêt debout et que l'on regarde à peine, mais qui, effondrés, deviennent des objets dignes de considération artistique. Bastide, Bacalan, Belsier, les 3B, ceux de Bordeaux et de mes propres initiales, ce babel de labial, d'articulation du bout des lèvres, comme une dégustation gourmande, comme le babil jouissif d'un enfant baragouinant le monde, ce lien onomastique plus fort que l'affiliation biologique, plus intense que l'ancrage géographique. Mes parents possédaient un hangar quai de Paludate. J'avais un double des clés et organisais souvent dans ce lieu vide et poussiéreux des soirées. C'est comme cela que j'ai appris à connaître Belsier, son territoire biscornu, ses zones disparates, derrière l'écran monumental de la gare Saint-Jean. J'ai arpenté ces rues étroites, ces quais glauques, ces immenses terre-pleins vides qui bordent des entrepôts plus immenses encore. Je me suis discrètement mêlé aux soifards, aux putes, aux relous, aux ouvriers fumant leurs clopes et se frottant les yeux. Au cours de ces errances, j'ai fait la connaissance d'êtres bizarres, un barnum d'existence tordue et fantasque. Les revendeurs de drogue, les macs agressifs, les fêtards au rire stupide, le distributeur psychotique de flyers, les amants terribles qui se mettent des beignes à 3h du matin sur le capot d'une voiture de police. Mon don d'observation m'a permis de débusquer dans le noir de la nuit ces silhouettes absurdes et d'en faire des objets fugitifs de contemplation. Il était là presque toutes les nuits, fidèle au rendez-vous. Je l'avais remarqué au cours de mes propres marches, traînant dans le quartier. C'était comme un double, un autre errant. Il était difficile de lui donner un âge. Je ne pouvais pas non plus déduire de son apparence un quelconque statut social. La nuit a cette particularité d'effacer les positions, ou de les renverser. Il ressemblait peut-être à un vagabond, peut-être à un rentier. Il aurait pu être pauvre ou riche, instruit ou inculte, je ne sais pas. Je le voyais seulement fureter partout la nuit, sans donner l'impression d'avoir de mauvaises intentions. Il était comme moi aux aguets, recherchant peut-être des scènes fugaces, des impressions vives. Tout simplement, ne supportait-il pas de rester seul, chez lui enfermé entre quatre murs. Jusqu'au petit jour, il naviguait ainsi, entre les rares passants et les immeubles embrunis. L'obscurité le dédommageait de sa malchance. Elle lui conférait un autre pouvoir. Là où le jour, il devait disparaître dans l'anonymat de la ville et de la foule, la nuit lui permettait une revanche sur l'indifférence. Il portait à la ceinture un porte-clés fantaisie que j'entendais tinter avant même de le voir apparaître dans mon champ de vision. C'était comme un avertissement, la cloche du lépreux. Et puis, comme les autres, ces centaines de misérables soldats que j'ai connus lors de ces virées, il a disparu sans que j'aie pu lui parler une seule fois, lui aussi absorbé par le noir de l'éternelle nuit. Nous, hommes de la nuit, appartenons à une sorte de société secrète, celle qui rend possible ce qui est impensable le jour. L'inversion des rôles, l'aventure et la furie, l'intensification des sensations, la métamorphose. L'ennui lui-même n'a pas la même saveur, il est plus mat, plus dense, comme ce noir qui envahit tout et dissout les êtres dans le néant. À cette époque-là, je sortais d'une double rupture amoureuse et traînais mon mal-être dans tous les bars de Bordeaux. Je vivais au jour le jour, c'est-à-dire la nuit. Je n'avais plus la notion du temps, je négligeais mes obligations sociales et parvenais à peine à maintenir un semblant de normalité. Mes amis ne donnaient pas l'impression de s'apercevoir de quelque chose. J'étais passé maître dans l'art de donner le change, et pourtant j'étais perdu, sans repère, un no man's land intérieur. C'est le soir que la détresse m'étreignait plus vivement, mais aussi les occasions de la fuir. Nombre de fois, je me laissais enfermer avec quelques autres oiseaux de nuit derrière un rideau de fer et buvais jusqu'au matin. Il n'était pas rare que je m'endormis sur le comptoir dans les flaques d'alcool et les taches de cendre. Lorsqu'après des heures enfumées, je me faufilais sous le rideau, Les yeux rougis de désespoir, je n'avais aucune envie de rentrer chez moi. L'air frais ne me rassérénait pas. Il ne me faisait sentir que plus cruellement encore la malédiction du jour. Alors, toujours attiré par les marges, je me dirigeais une nouvelle fois vers les périphéries. On pourrait mettre tout ça en chiffres. Les kilomètres arpentés, les jeans déchirés, les bagarres évitées, provoquées, perdues, les litres de bière bues et vomies jusqu'à l'écœurement, les inepties proférées avec sérieux, le ton docte du milieu de nuit qui transforme un attroupement en conciliabule, les prénoms notés puis oubliés, les promesses faites à la vie et la mort, les visages et les physionomies qui défilent, les clopes échangées, écrasées, les regrets du lendemain, quantifier cette expérience, tenter de lui donner une apparence raisonnable, mais ce serait peine perdue. Ce que Belsier m'a appris. L'expérience nocturne réclame deux qualités. Être totalement dépourvu de préjugés et faire preuve de scepticisme en toutes circonstances. Il faut à la fois savoir tout accueillir sans prévention et ne rien croire. Ce que de nuit je préfère par-dessus tout, c'est épier les fenêtres éclairées, grappiller au vol quelques scènes furtives dans le bleu outre-mer de la lumière d'un ordinateur, un vieil homme qui passe un livre à la main, une femme en robe de chambre qui fume et tousse, un enfant qui refuse de dormir et croise mon regard. La fenêtre éclairée constitue le cadre idéal pour amorcer des histoires. Elle combine le rectangle cinématographique et la naissance du récit. Je maudis volets et rideaux. Le type se retourne. Il sent sûrement que je l'observe car ses gestes ont perdu de leur naturel. Il me paraît saoul. Ses mouvements sont mal coordonnés. Son dos est voûté et ses bras se balancent de manière arythmique. Il se remet en route, continue de tituber. Il avance vers un mur gris recouvert d'affiches déchirées. Quand il l'atteint, il se tient avec une main et de l'autre essaie de déboutonner sa braguette. Mais il ne parvient à faire ni l'un ni l'autre. Il insiste pourtant avec obstination. Il parvient enfin à sortir sa queue, mais s'asperge aussitôt les pieds et se met à bougonner. Puis l'autre bras flanche et l'homme tombe au sol. Il est tendu sur le seau comme un scarabée sur sa carapace, aussi gourd et pathétique. Il reste là pendant un instant sans bouger, puis il se démène, agite les bras et les jambes comme des pattes. Ses efforts demeurent vains, il ne parvient pas à se redresser. Puis, brusquement, il redevient immobile. Il ne s'est pas endormi, non. Je perçois distinctement ses yeux jaunis par la lassitude qui brille sous les néons. Il donne simplement l'impression de vouloir s'engouffrer par une défissure du sol, de devenir l'insecte qui l'imite. Je n'aime pas l'expression « after ». La nuit ne connaît ni avant ni après. Elle se déroule dans le maintenant éternel des mystiques et des voyous. Il est sage de se laisser entraîner par des rencontres fortuites, de se retrouver un verre à la main dans des appartements inconnus de Belsier ou de Saint-Michel, à discuter avec un homme qui ne l'est pas moins, de partager les dernières cigarettes, de faire le point sur l'état pitoyable du moral des ménages, d'ajouter des anecdotes au stock des historiettes. La nuit possède une vertu démocratique. Elle nivelle les écarts, met sur le même plan le riche et le pauvre, le nanti et le déclassé. Le rang lui-même disparaît. Combien de fois me suis-je fait mettre en boîte par des pauvres types qui profitaient de l'égalité nocturne pour prendre une revanche sur l'injustice du jour ? Je les en remercie. La techno est l'incarnation de tout ce qui ne tourne pas rond dans la civilisation occidentale. Le grand écrivain désabusé énonce cette assertion avec le détachement froid et clinique qui sied à celui qui veut graver dans le marbre de ses auditeurs une affirmation qui ne souffre aucune discussion. Il se mouche fort ensuite dans son tire-jeu à carreaux, puis dans le même mouvement économe mais ferme, vide son énième verre de Campari en conservant son air ascétique oriental digne de Siméon du désert, fort la colonne où se perchait. Mais le grand écrivain désabusé n'a pas besoin de prendre de la hauteur physique pour imposer à son entourage l'élévation de ses vues, de sorte que, même engoncé dans ce vieux fauteuil en cuir aux bras élimés et rapiécés, il toise l'univers de son point de vue de Sirius. Autour de lui, les membres du groupe le regardent comme un chaman échappé des tribus sibériennes, un sorcier mystique industriel, un gourou pour les âges post-punk fait de banlieues mortes, de centres commerciaux tentaculaires, de parkings à étages, ou écouter dans une voiture de location le « In Manner of Speaking » de Tuxedo Moon, et s'effondrer idiotement en larmes sans que cela ait une quelconque relation avec une séparation amoureuse, un deuil de proche ou un échec existentiel. Les entends-tu ? Les sons des pas lourds, les vrombissements des moteurs, la clim qui ronronne dans l'atmosphère lourde et orageuse du soir d'été, les sirènes qui teintent et s'harmonisent avec les motifs baroques des robes, les mots échangés, les cris rock que l'on hésite à prendre au sérieux. Je ne sais si cela est dû à l'histoire, au climat, à la composition sociologique de la ville, mais Bordeaux se caractérise par une proportion importante de raseurs. Ceux-ci ont la fâcheuse habitude de sortir le soir et de vous interpeller au comptoir pour vous raconter leurs déboires, leurs succès, leurs souvenirs, leurs espoirs, avec le sérieux d'un exposé scientifique qui ne souffre aucune contestation et passe haut la main le test de la falsification. Ne sert à rien de les écouter, mais entendre le son strident de leur péroraison n'est pas sans charme ni intérêt. Il évoque le souffle du vent qui s'engouffre dans une ruelle. C'est comme un feu sans lumière, quelque chose qui brûle mais n'éclaire pas. La fièvre du hors-chez-soi, la pulsion de 11 heures qui, alors que vous apprêtiez à vous coucher, vous fait prendre votre veste et sortir. Un jeune gars m'indique l'entrée de l'entrepôt. Me voici dans une vaste salle entourée de galeries suspendues, au milieu desquelles conversent des groupes de silhouettes plongées dans l'ombre. Au sol a été élevé un podium éclairé par des lampes de chantier portatives. Une centaine de personnes attend dans un murmure étrange ce qui va se passer. Une jeune femme à l'air goguenard me demande une cigarette. Elle se présente à moi comme l'une des organisatrices de l'événement. Elle prononce « événement », ce qui m'agace, mais je ne fais aucune remarque. Puis elle me déclare « ça va être énorme ». J'opine du chef même si je n'en pense rien. La pratique de la nuit m'a accoutumé aux fausses joies, aux extases frelatées qui ne passent pas le mur du petit déjeuner. Je ne suis pas blasé, mais lucide. Cette lucidité que l'insomnie procure, ce feu qui éclaire mais ne réchauffe pas. En haut d'une rambarde, la sono se met à beugler un truc viril et le groupe attendu descend dans les fracas de joie. Au fond, nous aurions tous voulu autre chose. Mais pour diverses raisons, nous devons nous contenter de cela. Les trottoirs sales, le reflet criard, les discussions vives et creuses, la sixième bière sans goût, les bousculades et les provocations, les yeux des filles qui clignent de mépris, l'idiot qui beugle dans vos oreilles et répète 10 fois la même chose. Insipides paroles au goût de merde, la solitude de 3 heures du matin, lorsqu'on hésite entre rentrer et continuer, l'impression lourde, tenace, déjà douloureuse, que le lendemain va être encore pénible, long tunnel sombre et froid de récupération, où défileront les images sordides de la nuit passée. Nous attendons un miracle de la nuit, une véritable transformation. C'est pour nous le moment de l'initiation, du passage dans une autre dimension. On escalade un mur, on fracasse une lampe et on se croit intronisé. L'excès, la rencontre, l'amour, la violence, la part dionysiaque de l'existence. Que l'on erre, travaille, boive, danse, tombe, on espère toujours que la nuit opérera son ensorcellement. Mais que peut-elle faire, elle, la nuit du monde, résidu de grands commencements, portion journalière du chaos originel, parcelle de noir et de vide. On ne le sait pas, mais on croit en sa vertu, en ses prodiges. J'y ai longtemps cru moi-même, à dépenser la moitié de ma vie à l'explorer en tous sens comme un continent inconnu, à ouvrir de nouvelles voies, à rencontrer ces tribus étonnantes, parfois hostiles. J'ai eu mes brassées d'anecdotes et de scènes, de souvenirs singuliers, de visions surprenantes. Le doc avec ses dreadlocks qui joue une sonate de Schubert dans un appartement abandonné et empeste le bouc comme le clochard céleste qu'il est. La petite gotte fugueuse qui vous agresse avec ses mots durs et veut se tailler les veines avec un chewing-gum. Mais je n'ai pas changé, la nuit ne m'a pas changé. Le soleil de la conscience matinale m'a rendu tel quel, ni meilleur, ni pire. Lorsqu'on fera le bilan de tout ça, il ne faudra cependant pas oublier que malgré les heures perdues, les conversations sans queue ni tête, les soirées trop arrosées, les chancellements nocturnes, sur les trottoirs crasseux, au milieu des papiers gras et des bouteilles cassées, les humiliations et les joies éphémères, les blues matinaux, c'est nous qui avons construit cette ville.